Et l'on commence avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Donald Trump promet désormais une transition du pouvoir ordonnée et sans accrocs. Lui qui avait encouragé ses partisans à marcher sur le Congrès à Washington condamne ce matin une attaque odieuse. Il appelle à la réconciliation. Le président des États-Unis change de ton, lâché par une partie de son camp, de ses ministres, alors que les démocrates appellent à le destituer sans attendre la fin de son mandat dans 2 semaines.
En France, débat et des restaurants fermés encore un mois au moins. Pour les lieux culturels, on en saura plus le 20 janvier.
Le gouvernement promet de la visibilité et un calendrier vaccinal accéléré. Pendant ce temps à Madrid, les salles de concert ont rouvert avec des règles sanitaires strictes et sans aucun cas de Covid recensé depuis des semaines parmi les spectateurs espagnols.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, que peuvent changer les variants du coronavirus? Je poserai la question à un virologue, Yves Godin.
Quitter le navire avant le naufrage, ou du moins avant la passation de pouvoir le 20 janvier prochain. C'est ce que font plusieurs membres de l'administration Trump. Betsy DeVos, la ministre de l'Éducation, vient de démissionner. C'était pourtant l'une des rares en poste depuis le début du mandat du président républicain. La secrétaire d'État au transport, qui est aussi l'épouse du chef de la majorité républicaine au Sénat, avait déjà jeté l'éponge hier. Toutes deux se disent choquées par l'assaut des partisans de Donald Trump contre le Capitole mercredi à Washington. Il est indéniable que votre rhétorique a eu un impact sur la situation, lançait hier la ministre de l'Éducation contre le locataire de la Maison Blanche. Donald Trump a incité des violences, il doit être destitué, c'est ce que réclament les démocrates au Sénat et à la Chambre des représentants. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Catherine.
Vous êtes le correspondant de France Culture à Washington où Donald Trump est donc attaqué de toutes parts pour son rôle de pompier pyromane.
Oui, et les reproches les plus virulents viennent sans surprise de celui qui dans 12 jours maintenant le remplacera dans le bureau ovale pour la seconde fois depuis les événements du Capitole. Joe Biden a pris la parole hier après-midi depuis son fief de Wilmington dans le Delaware pour pointer la responsabilité de Trump et s'étonner aussi qu'on ait laissé faire ces émeutiers, qu'on les ait laissés entrer dans l'un des lieux les plus emblématiques de la démocratie américaine.
They weren't protesters. Don't dare call them protesters. They were.
Ce n'étaient pas des manifestants, ne les appelez pas comme ça. C'était une foule d'émeutiers, des insurgés, des terroristes intérieurs. Si ça avait été un groupe de manifestants Black Lives Matter, ils auraient été traités très différemment de la foule de voyous qui a pris d'assaut le Capitole. Nous savons tous que c'est vrai et c'est inacceptable.
And it is unacceptable. And I wish we could say we couldn't see it coming.
J'aimerais que l'on puisse dire on ne l'a pas vu venir, mais c'est faux. Ces 4 dernières années, nous avons eu un président qui a montré clairement son mépris pour notre démocratie, notre constitution, dans tout ce qu'il a fait. La journée d'hier n'a été que le point culminant de ces attaques incessantes.
Quelques heures plus tard, le président sortant Trump répond par le biais d'une vidéo de 2 minutes et 40 secondes publiée sur son compte Twitter qu'il vient de récupérer après avoir été suspendu pendant 12 heures. Il assure d'abord vouloir se concentrer sur une transition du pouvoir sans accrocs et puis il condamne les événements qui se sont produits au Capitole.
Like all Americans, I am outraged by the violence.
Comme tous les Américains, je suis scandalisé par la violence, l'anarchie, le désordre. J'ai immédiatement déployé la garde nationale et les forces fédérales pour sécuriser le bâtiment et expulser les intrus. L'Amérique est et sera toujours une nation de loi et d'ordre. Les manifestants qui se sont infiltrés dans le Capitole ont souillé le siège de la démocratie américaine. Ceux qui sont impliqués dans des actes de violence et de destruction ne représentent pas leur pays. Ceux qui ont violé la loi paieront.
Et on apprenait quelques heures plus tard la mort d'un officier de la police du Capitole, décédé hier soir des suites de ses blessures après avoir affronté les manifestants. 2 personnes sont mortes à l'intérieur de l'édifice, une supportrice de Donald Trump aussi, tuée par les tirs d'un policier.
Et que sait-on justement de celles et ceux qui ont envahi le Capitole, Grégory? C'est pro-Trump qui ont fait vaciller la démocratie américaine et la sécurité à Washington.
Alors écoutez, beaucoup, évidemment, portaient ces casquettes rouges « Make America Great Again » sur la tête ou des drapeaux Trump 2020. Donc, pour l'essentiel, il s'agissait sans aucun doute de sympathisants du président sortant. On a vu aussi des membres de milices ou de groupuscules d'extrême droite, ces gens vêtus en tenue paramilitaire et visiblement venus pour en découdre. Le FBI, en ce moment, examine des dizaines et des dizaines de bandes vidéo pour identifier les individus qui ont participé à ces violences. Toute la journée d'hier, il y a eu des perquisitions dans plusieurs hôtels de la capitale fédérale. Mais on peut s'étonner aussi du nombre assez faible d'arrestations, 70 environ. C'est peu, considérant l'importance de la foule qui a pénétré à l'intérieur du bâtiment. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, s'interroge aussi sur le manque de réaction des forces de sécurité, de cette police du Capitole, 2400 hommes qui visiblement ne s'étaient pas préparés à un tel assaut, alors qu'il était prévisible. Hier soir, le patron de cette police du Capitole a présenté sa démission. Elle sera effective à compter du 16 janvier prochain.
Grégory Phillips, merci. Vous êtes, je le rappelle, le correspondant de France Culture à Washington. Et pour retrouver une histoire, des histoires de violence au Capitole, rendez-vous sur franceculture.fr.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. L'OMS appelle l'Europe à se mobiliser davantage face à la situation alarmante créée par le nouveau variant du coronavirus.
Considéré comme 50 à 70% plus contagieux que le virus initial, deux foyers à risque ont été détectés dans l'Hexagone, en Bretagne et en Île-de-France, avec au total 19 cas recensés. Mais il est impossible de savoir ce qui circule réellement, car la plupart des tests PCR ou antigéniques utilisés en France ne distinguent pas quand ils sont positifs, s'il s'agit ou non du variant. Pas assez de séquençage non plus. Inquiet donc d'une situation sanitaire qu'il qualifie de fragile, Jean Castex a maintenu hier soir toutes les restrictions sanitaires en vigueur. Les bars, restaurants, cinémas, théâtres, stations de ski restent fermés jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement pourrait par ailleurs étendre le couvre-feu à 18h à 10 nouveaux départements. Jean Castex et Olivier Véran promettent aussi d'accélérer la vaccination. Moins de 30 000 personnes ont reçu des doses en France, 10 fois plus en Allemagne. Le gouvernement veut donc rattraper ce retard, Laura Dulieu.
Le gouvernement maintient son objectif et promet 1 million de personnes vaccinées d'ici la fin du mois de janvier. Pour cela, plusieurs leviers. D'abord, les centres de vaccination. Il y en a 100 sur le territoire français à l'heure actuelle, à raison d'au moins un centre par département. Il y en aura 300 dès la semaine prochaine, 600 à la fin du mois. Ensuite, la procédure de vaccination sera simplifiée. Le parcours pour les résidents en EHPAD était jugé laborieux, notamment avec le recueil du consentement. Ce sera moins le cas avec les plus de 75 ans. Eux pourront se faire vacciner à partir du 18 janvier. Ils pourront même prendre rendez-vous dès la semaine prochaine. Pas besoin d'une visite chez le médecin avant. Il suffira juste de se rendre au centre de vaccination et de remplir un questionnaire. Toujours pour accélérer les opérations, la France imite son voisin britannique et décale de 6 semaines au lieu de 3 la deuxième injection du vaccin Pfizer. Ce n'est pas moins efficace, promettent les autorités sanitaires, et ça permet mathématiquement de vacciner deux fois plus de personnes plus rapidement. Enfin, après les plus de 75 ans, viendra le tour des plus de 65 ans. Cela représente 7 millions de Français en plus. Là aussi, avec une procédure encore simplifiée et une vaccination directement en ville. Avec les 78 millions de doses commandées pour avant l'été, le Conseil scientifique estime de 12 à 14 millions le nombre de personnes vaccinées d'ici mi-avril.
Contrairement à la France et à d'autres pays européens, l'Espagne a vu rouvrir des salles de spectacle depuis la fin du confinement au mois de juin dernier, avec des règles sanitaires très strictes et des jauges remplies à 75% maximum. C'est le pari des autorités régionales qui affichent fièrement à Madrid un slogan « La cultura segura », la culture en toute sécurité. Tandis que le secteur parle déjà de près d'un million de pertes en Espagne, la région madrilène est parvenue ainsi à mieux résister à cette crise sans précédent. Le reportage de Marie-Hélène Ballestero.
6 mois plus tard, Madrid fait toujours figure d'exception en Espagne. En lien permanent avec les autorités sanitaires, la région a établi une série de protocoles très stricts afin de garantir la sécurité du public dans les salles de spectacle. Marta Rivera de la Cruz, conseillère régionale à la culture et au tourisme, s'en félicite.
Le bilan est très bon. Il n'y a pas eu de cluster associé aux salles de théâtre ou de concert. Nous sommes en train de permettre à des centaines d'artistes de travailler dans la région de Madrid. Ils ont ainsi l'opportunité de continuer de créer.
Au Théâtre Real, l'Opéra Majestueux de Madrid, la création va bon train depuis le mois de juillet. Jusqu'à dimanche prochain, le public peut savourer le chef-d'œuvre de Mozart, Don Giovanni. Paris réussi pour ce haut lieu de la culture madrilène qui a investi une lourde somme pour sécuriser les lieux, comme l'explique Joan Mata Bosch, le directeur artistique.
Les coûts de l'investissement qu'on a fait jusqu'au moment pour maintenir le théâtre ouvert est autour d'un million d'euros, entre des adaptations de plusieurs espaces du théâtre, de la salle de répétition, des infrastructures du théâtre, de l'utilisation des masques et des gels.
Masques, gels, contrôle de température à l'entrée, lampes à rayons ultraviolets pour désinfecter la salle, les accessoires et les costumes, tests hebdomadaires pour les artistes, la liste des mesures adoptées est longue. Pour l'heure, cela a porté ses fruits puisqu'aucun cas de contamination n'a été signalé parmi les spectateurs du Théâtre Real qui sont ravis d'avoir pu revenir à l'opéra.
Marie-Hélène Ballestero à Madrid pour France Culture. Au Mexique, le gouvernement interdit le maïs transgénique et le glyphosate, une mesure pionnière en Amérique latine. Le président Andrés Manuel López Obrador donne un délai de 3 ans pour éliminer l'usage de l'herbicide cancérogène et pour mettre fin aux importations de maïs génétiquement modifié. Une victoire pour les organisations écologistes et paysannes dans ce pays qui est la terre d'origine du maïs, Emmanuel Stiles.
Plante considérée comme sacrée par les Aztèques et les Mayas, il existe près de 60 variétés de maïs au Mexique. Leur préservation dépendait à tout prix de l'interdiction du maïs transgénique, selon les organisations environnementales. Une interdiction devenue réalité avec une date butoir, 2024. Victor Chimal Ortiz, porte-parole de la campagne Sin Maïs No Hay País, sans maïs, pas de pays, souligne l'importance de cette décision.
C'est la matérialisation d'une lutte sociale de longue date axée principalement sur la sauvegarde du maïs originaire du Mexique, mais aussi la défense des droits des communautés paysannes et indigènes qui les cultivent.
Jusqu'à présent, la culture du maïs transgénique a été évité au Mexique par un moratoire et la suspension des projets pilotes dans les campagnes, mais le problème réside surtout dans les importations. Du fait de sa consommation élevée, le pays n'est pas autosuffisant et il importe une grande quantité de maïs génétiquement modifié.
Tant le glyphosate que le maïs transgénique, qui sont d'ailleurs associés, sont présents dans l'alimentation des Mexicains. C'est justement l'importance de ce décret et du suivi dont il devra faire l'objet, car le but est de retirer progressivement le maïs transgénique de la production d'aliments industriels.
Cependant, l'interdiction du glyphosate d'ici 3 ans est un coup de massue selon les représentants de l'industrie agroalimentaire qui affirme qu'il n'existe pas d'alternative à cet herbicide.
Emmanuel Stiles au Mexique pour France Culture. Le temps de ce vendredi 8 janvier, gris sauf dans le sud-ouest et des températures bien fraîches, voire glaciales ce matin. Comptez entre moins 6 et 0 degrés de l'intérieur des terres vers les côtes, Guillaume Herner.
Merci Catherine Dutu. Vers 7h25, le Comme Personne, notre rendez-vous du vendredi consacré ce matin à la mère écologiste de Poitiers, Léonore Monconduit, qui a mis fin à plus de 40 ans de règne socialiste sur la ville. Et dans quelques instants, la question du jour consacrée aux variants du coronavirus.